Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. On va être ensemble pendant une heure et aujourd'hui, le programme sera commencé par le journal suivi les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et puis, on va présenter les événements de la semaine qui sera suivi par le magazine culturel L'Indonésie en couleur, et la dernière, le courrier et la musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Selon le président Joko Widodo, la stabilité dans la mer de Chine méridionale est très importante. Le Forum international du tourisme et l'environnement 2016. L'Indonésie souligne une intention spéciale des crimes de pêche. L'Indonésie est devenue la destination d'expansion des entreprises de construction de la Corée du Sud. La maison de l'Indonésie, une promotion intégrée en Allemagne. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a dit à Nagoya, le Japon, récemment que la stabilité dans la mer de Chine du Sud était très importante afin de soutenir la croissance économique en Indonésie. L'Indonésie donne toujours attention à la question de la stabilité et la sécurité dans la région de la mer de Chine méridionale. Le président a expliqué qu'au sommet du G7 à Ishima, le Japon, de nombreux pays qui étaient présents ont discuté de la question de la paix dans la région. Lors d'une réunion bilatérale entre le président Joko Widodo et le président français François Hollande, ils ont discuté de la coopération sur le commerce de l'huile de palme brute au CPO de l'Indonésie en France. La taxe pour l'huile de palme brute au CPO d'Indonésie est le plan du Parlement français. Dans le sommet du G7 à Ishima, le président a soulevé la question de la stabilité et la prospérité de l'Asie. En outre, les chefs d'État ont également discuté de la question du développement durable, l'autonomisation des femmes et la santé mondiale. L'ambassade de France en Indonésie, en coopération avec le ministère du Tourisme de la République d'Indonésie, organiseront un forum international du tourisme et l'environnement 2016 qui aura lieu de 2 au 3 juin 2016 à l'Institut de tourisme Nusa Dua Bali ainsi que dans la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Le chercheur français sur la région d'Asie du Sud-Est, Christine Cabasset à Jakarta, a déclaré que le plus grand défi pour l'Indonésie dans le développement dans le secteur du tourisme qui est la règle des droits dans tous les niveaux d'administration, la sécurité et la disponibilité de l'environnement et le logement, ainsi que les services de base qui sont fiables, y compris l'éducation, la santé et le transport. Selon lui, le développement du tourisme a joué le rôle d'encourager des gens sur le changement climatique à travers les chances d'aider et d'apprendre d'autres pays. L'Indonésie et la France ont la culturelle, la géographie et la politique qui sont différentes. Donc, il ne peut pas imiter ce qui est fait par la France dans le développement du tourisme et l'appliquer en Indonésie. Mais on peut apprendre beaucoup entre autres la gestion de l'eau et la technologie d'économie d'énergie et le traitement des déchets. L'ambassadeur, en tant qu'également le représentant permanent de la République d'Indonésie sur le Conseil des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, l'Autriche, M. Rahmat Budiman a confirmé l'importance de la communauté internationale à donner une attention spéciale à la criminalité transnationale organisée dans le domaine de la pêche. Cette question a été transmise par l'Indonésie à la discussion de l'ordre du jour spécifique sur la criminalité à la 25e réunion de la Commission sur la prévention des crimes et la justice pénale à Vienne, l'Autriche, comme déclaré le ministre conseiller de l'ambassade de la République d'Indonésie à Vienne, M. Dodi Sembodo Kusumanegoro, samedi à Londres. Il a dit que les progrès de la technologie de l'information et de la communication ont été maltraités et exploités par des groupes de la criminalité transnationale organisée pour mener la criminalité transfrontalière. Il faut renforcer la coopération entre les pays pour lutter contre la criminalité organisée transfrontalière, notamment les crimes de la pêche et d'autres crimes tels que le trafic illicite d'objets culturels, la flore et la faune qui sont protégés et le cybercrime. L'Indonésie encourage tous les pays et le Bureau des Nations Unies pour les affaires de drogue et le crime de renforcer des mesures mutuellement pour prévenir et combattre ces crimes. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie est devenue la destination d'expansion des entreprises de la construction de la Corée du Sud, notamment dans le domaine de la construction. Beaucoup de constructions des infrastructures et le bon taux de croissance économique rendent l'Indonésie comme marché potentiel. L'une des entreprises sud-coréennes, Duxin Housing, a commencé à faire l'expansion de l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le gérant de cette entreprise, Jason Jang, dans un communiqué de presse à Jakarta le samedi. Il a affirmé que pour la première étape, son entreprise essayait de présenter leurs produits à l'exposition Indobuiltech 2016 qui est tenue cette semaine à Tangerang. À travers cette exposition, ils pourraient trouver un partenaire d'affaires pour commercialiser ses produits. Jason a ajouté, la société avait projet d'ouvrir un bureau en Indonésie au cours des prochaines années. Jusqu'à présent, le plus grand marché pour ses produits dans l'ASEAN était le Vietnam. Cependant, il croit que l'Indonésie est également un marché potentiel en raison du grand nombre de la population et le produit intérieur brut. Le Centre de la promotion des commodités d'exportation des produits nationaux de manière intégrée sous la forme de la Maison d'Indonésie a été inauguré par le consul général de l'Indonésie à Hambourg, l'Allemagne, Sylvia Arifin, en CityLab Brem, au quartier d'Allemagne du Nord. La Maison de l'Indonésie a une salle d'exposition située au centre-ville de Brem qui est divisée en deux parties face à face. Dans une partie de la salle d'exposition, les visiteurs peuvent voir les produits exposés et aussi peuvent profiter d'une variété de café Nusantara. Le vice-ministre de l'économie, du travail et des sports de Brem, Ekehard Siering, a exprimé sa fierté d'être en mesure de renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et Brem, surtout dans le domaine du commerce international. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis, bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Banyuwangi. Plusieurs 18 journalistes du Japon vont visiter Banyuwangi pour quelques jours afin de promouvoir un nombre de sites touristiques en région qui s'appelle « The Sunrise of Java », soit le lever du soleil de Java, à leur pays. Le directeur du marketing du bureau touristique d'Indonésie au Japon, Naomi Takahashi, a dit le mercredi dernier à Banyuwangi que ses journalistes vont visiter entre autres le cratère Ijen et un nombre de plages et villages touristiques. Les journalistes qui font FemTrip, étant lancés par le ministère indonésien du tourisme, sont entre autres de Mainichi Weekly, Globetrotter Travel Guidebook du Japon et Kumon Publishing. Selon Naomi Takahashi, on a choisi Banyuwangi comme location de FemTrip parce que les sites touristiques là-bas sont en accord avec les caractères des touristes japonais qui n'aiment pas de destinations difficiles. Ils veulent tout à fait en promenade autour de la ville, mais ils peuvent voir beaucoup d'attractions. Pour Naomi et le peuple japonais, Banyuwangi pourrait être une nouvelle alternative de nouvelles destinations touristiques en Indonésie, parce qu'il y a de nombreux attraits naturels qui peuvent être appréciés, de la plage, le village qui a une culture unique et le mont Ijen étant célèbre avec des flammes bleues. La deuxième info vient de Gorontalo. Le vice-gouverneur de Gorontalo, Idris Rahim, soutient le voyage effectué par l'équipe de l'expédition Islam Nusantara dans la province Gorontalo. Lorsqu'il a reçu l'arrivée de l'équipe à Gorontalo jeudi dernier, il a souhaité que par l'intermédiaire de l'expédition, l'équipe puisse être en mesure de travailler ensemble avec le gouvernement pour inculquer la fierté sur la culture locale étant basée sur la loi islamique pour les jeunes musulmans. Le vice-gouverneur a également souhaité que l'équipe de l'expédition Islam Nusantara puisse soulever, en même temps promouvoir, la culture de Gorontalo pour attirer les touristes à visiter la province Gorontalo. L'expédition Islam Nusantara vise à transmettre au monde que l'Islam Nusantara est différent du caractère de la violence radicale et préjudiciable à la civilisation. Cette expédition est devenue l'affirmation que l'islam n'est pas contre la culture. Selon Idris, les coutumes et la culture du peuple de Gorontalo sont beaucoup influencées par les enseignements et la loi islamique comme la religion de la majorité. La communauté de Gorontalo adhère encore aux valeurs traditionnelles et la culture dans leur vie quotidienne. La dernière info vient de Yogyakarta. Le bureau de transport de la ville de Yogyakarta lance le mouvement Budayakan Angkutan Berkeselamatan, soit cultiver le transport en sécurité ou Bung Selamat, comme un effort de donner la priorité à la conduite en sécurité dans la communauté. Le directeur du bureau de transport de Yogyakarta, Wirawan Haryoyudo, à travers le lancement du Bung Selamat au terminal Giwangan Yogyakarta, a déclaré le mercredi dernier que le mouvement vise à établir le transport qui est sûr, confortable et en sécurité. Il a dit « La sécurité routière n'est pas seulement déterminée par l'habileté du conducteur, mais aussi à l'état du véhicule, le respect des panneaux de circulation et la disponibilité de l'infrastructure de soutien. » Le bureau de transport de Yogyakarta suivra le lancement du mouvement Bung Selamat avec la socialisation aux entreprises du transport. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie. Nous allons commencer le 29 mai 1953, la première ascension de l'Everest. Le Néo-Zélandais Edmund Hillary, 33 ans, et son Sherpa népalais Tenzing Norgay, 29 ans, sont les premiers à planter leur drapeau sur le toit du monde. Le mont Everest, situé à la frontière du Tibet et du Népal dans la chaîne de l'Himalaya, culmine à 8848 mètres. L'expédition comprenait au total 15 grimpeurs, 450 porteurs et 34 serpents. La première équipe d'assaut a échoué à 8750 mètres de 26 milles. Hillary et Tenzing quittèrent leur sample le lendemain et après une nuit passée à 8500 mètres atteignirent le sommet à 11h30. Entre le 29 mai 1850, le drame au stade du Eisel. Lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, retransmise en direct dans toute l'Europe, les tribunes du stade de Heysel Bruxelles se transforment en chambre de bataille mortelle. Les affrontements entre les supporters de Liverpool et ceux de la Juventus de Turin feront 39 morts. Dans la bousculade, des corps sont piétinés et crassés contre les grilles. Le match a quand même lieu, la Juventus l'emporte grâce à un pénalty de Michael Platini qui ignore la gravité du drame. Il refusera de revenir sur la peluche du Eisel. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire ce soir, l'édition 29 mai. À demain.
La voix de l'Indonésie. Soyez la première, soyez différente, soyez la meilleure.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « La conférence internationale des médias islamiques forme l'Alliance internationale des médias musulmans ». Les participants de la conférence internationale des médias islamiques, ou ICIM, ont convenu de former l'Alliance internationale des médias musulmans, ou IMA, avec un seul objectif, à savoir de lutter contre les nouvelles négatives sur la Palestine. La sélection du mot « les terroristes palestiniens » d'être les combattants palestiniens et aussi l'effort de redresser les faits. En outre, pour lutter contre la propagande médiatique qui a accusé les Palestiniens comme des terroristes. Cela a été dit par l'un des initiateurs de la Conférence internationale des médias islamiques, M. Aad Surya Shafaat, dans une conférence de presse à Wisma Antara, Jakarta, jeudi. Il est aussi le rédacteur en chef de l'agence de presse Antara. Selon lui, l'Alliance internationale des médias musulmans, ou IMA, sera dirigée par le leadership partagé, élu par le consensus entre ses membres, avec le mandat de 3 ans dans une période. La formation de l'Alliance internationale des médias musulmans existe dans la déclaration de Jakarta, qui se compose de 5 points d'action de la conférence. Cette déclaration est le résultat de la Conférence internationale des médias islamiques qui a eu lieu du 25 au 26 mai 2016 à Jakarta. En général, selon M. Aad, les points d'accord de la Conférence internationale des médias islamiques visent à renforcer le réseau entre les médias islamiques dans divers domaines pour la défense des intérêts de l'islam et des musulmans. Plus précisément, la coopération telle que l'échange de nouvelles et citer des nouvelles gratuitement parmi les médias islamiques, le développement de la compétence des ressources humaines des médias et le renforcement de la corporation des médias islamiques. Il a également été convenu de renforcer le rôle des médias dans l'amélioration de l'éducation du public pour encourager l'unité de l'islam, l'intensification des relations entre l'organisation médiatique islamique avec diverses organisations communautaires, la propagation de l'islam et d'autres organisations qui sont préoccupées par la défense des intérêts de l'islam et des musulmans. En outre, les participants de ISIM sont d'accord pour augmenter la campagne de boycott contre les produits de pro-zionisme et de plaidoyer pour les minorités musulmanes opprimées. Cependant, les experts tels que directeur du Moniteur de Moyen-Orient basé en Grande-Bretagne, M. Daoud Abdullah, l'imam de la mosquée à New York, les États-Unis, Sahamsi Ali, et le directeur de l'Organisation du Conseil islamique consultatif malaisien, Mohamed Azmi bin Abdul Aziz, ont convenu que la crise palestinienne est non seulement une question religieuse, parce qu'il y avait trois grandes religions, telles que l'islam, chrétien et juif. Le problème palestinien est la question humanitaire qui est la responsabilité de toutes les parties. Tout le monde doit avoir le souci de la question palestinienne. Les participants à la conférence de ISIM proviennent de l'Indonésie, l'Australie, l'Iran, le Koweït, le Liban, la Libye, les Philippines, la Malaisie, la Nigeria, Singapour, Soudan, la Thaïlande, Tunisie, la Turquie, les États-Unis et la Palestine. Tous les résultats de la conférence de ISIM seront réalisés dans la conférence similaire en Turquie dans un avenir proche. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici les événements de la semaine. Les événements du lundi, le ministre indonésien de l'Industrie, M. Saleh Husin, a déclaré que l'Azerbaïdjan pouvait devenir l'entrée du marché européen pour commercialiser les produits indonésiens. Les produits excellents de l'Indonésie, comme l'huile de palme brute ou CPO de l'Indonésie, se sont efforcés aux autres pays de l'Europe orientale à travers l'Azerbaïdjan. Selon M. Husin, en marge de la célébration de 98e anniversaire de la République Azerbaïdjan, a déclaré lundi que l'Indonésie et l'Azerbaïdjan vont accroître les échanges commerciaux de ces deux pays et renforcer la coopération bilatérale. Cependant, l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en Indonésie, Tamerlan Karayev, a déclaré que les deux pays pouvaient effectuer des projets communs sous la forme d'une entreprise conjointe. Les événements du mardi, l'Indonésie a accueilli la 16e réunion de l'Officier supérieur sur la criminalité transnationale. Il y a 11 sujets de discussion accordés par tous les pays de l'Asie du Sud-Est, entre autres contre le terrorisme, cybercriminalité, la traite des personnes, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la contrebande des armes, la piraterie maritime et les crimes économiques internationaux. Le chef de la police indonésienne, le général de police Badruddin Haiti, a déclaré mardi que les résultats atteints dans la réunion annuelle qui a eu lieu du 22 au 27 mai seraient rapportés à la réunion ministérielle de l'ASEAN sur la criminalité transnationale. M. Badruddin Haiti a déclaré que l'autre question qui sera discutée est la question des frontières qui se développe après l'entrée en vigueur de la communauté économique de l'ASEAN 2015. Il espère qu'à cette réunion, il y aurait la coopération et l'échange d'informations plus solides. La 16e réunion de l'Officier supérieur sur la criminalité transnationale était assistée par un certain nombre de pays en dehors des pays de l'Asie du Sud-Est et d'autres organisations internationales, entre autres la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et les États-Unis. Les événements du mercredi, l'ambassade d'Indonésie à Madrid en Espagne, en collaboration avec le ministère indonésien de la coordination des affaires maritimes, le Conseil de coordination des investissements ou BKPM et PT Wijaya Karya ou WIKA ont lancé une série de séminaires de la promotion d'investissement dans le secteur d'infrastructures maritimes et touristiques. Le séminaire avec le thème « L'Indonésie, possibilité d'investissement dans l'infrastructure maritime et touristique » a eu lieu consécutivement dans plusieurs villes en Espagne, Madrid, Vigo, Las Palmas et Valence, comme l'application de l'ambassade d'Indonésie à Madrid reçue par Antara de Londres mercredi. L'événement de lancement qui a eu lieu à Madrid a été ouvert par l'ambassadeur d'Indonésie à Madrid, Yuli Mumpuni Widarso, et le conseiller auprès du ministère de coordinateur maritime, l'amiral à la retraite, Dr. Marsetio, suivi par 67 PDG des entreprises des infrastructures maritimes. Les événements du jeudi, l'Indonésie et le Royaume-Uni renforcent le partenariat dans le domaine maritime. L'Indonésie et le Royaume-Uni sont liés aux 7 domaines de partenariat. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie du Royaume-Uni, M. Rizal Sukma, le jeudi, à une rencontre avec la reine Elisabeth II à Londres. Selon Rizal, il y avait beaucoup de possibilités dans le renforcement des relations entre les deux pays. Mettons, les deux pays ont également été engagés dans ce domaine partenariat, entre autres l'économie, le maritime, la politique, la sécurité et la culture. Dans la rencontre avec la reine d'Angleterre, la sécurité maritime est l'une des choses discutées. Les événements du vendredi, l'ambassadeur américain en Indonésie, M. Robert O'Blake, a déclaré que les États-Unis et l'Indonésie étaient maintenant dans une nouvelle zone de coopération, à savoir les synergies économiques numériques. Les bonnes relations entre les deux pays s'améliorent après la visite du président Joko Widodo en Amérique en octobre dernier, dans le partenariat stratégique, y compris les nouveaux domaines dans la coopération, l'économie numérique, a déclaré Robert O'Blake à Surabaya le vendredi soir. Dans la 240e célébration de la journée de l'indépendance américaine et le 105e anniversaire du consulat général des États-Unis à Surabaya, il a aussi déclaré que les relations spéciales existent aussi dans la ville de Surabaya. En réponse à la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis à l'Indonésie, le consul général des États-Unis à Surabaya, Heather Variava, a déclaré que la décision américaine de placer le consulat général des États-Unis à Surabaya a montré l'importance de la province de Java-Est et l'Indonésie orientale. Au même jour, l'Indonésie obtient l'appréciation parce qu'elle propose des crimes de pêcherie sont les criminalités transnationales. Beaucoup de pays de l'Organisation des Nations Unies, y compris la plupart des pays africains et la région du Pacifique, qui appréciaient la proposition de l'Indonésie qui voulait incorporer le crime de la pêche comme un crime transnational, a déclaré la ministre indonésienne de la Pêche et des Affaires Maritimes, Madame Susi Pujiasuti, à Jakarta le vendredi. Le gouvernement indonésien, par la ministre de la Pêche et des Affaires Maritimes, continuait de lutter contre le crime de la pêche comme la criminalité transnationale organisée dans la Conférence internationale sur la criminalité et la justice pénale à Vienne, en Autriche, le lundi. Dans ce forum international, l'Indonésie était présente comme le pays pionnier dans la lutte contre la criminalité transnationale de la pêche organisée. Chers amis, c'était les événements de la semaine de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous introduisons la cascade Citambur à Cianjur, Chababes. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. L'Indonésie est riche en destinations touristiques, à savoir les plages, les montagnes, les lacs et les cascades. Une des cascades qui peut être visitée est la cascade Citambur au village Karangjaya, sous-district Pasir Kuda, région Cianjur, Jawa West. La cascade Citambur est la plus haute cascade à Jawa West, avec la hauteur d'environ 100 mètres. Il y a deux versions de la raison pour laquelle cette cascade est appelée la cascade Citambur. La première version, depuis les jours d'autrefois, la cascade Citambur se trouve au royaume Tanjung Anginan avec un roi nommé Prabu Tanjung Pagelaran. Quand le roi se douche à la cascade, c'est toujours marqué par le son des tambours qui ont été battus par les gardes du roi. Le son du bruit sourd de l'instrument à percussion musicale était entendu assez loin, si bien que les résidents de Pasir Kuda l'appellent la cascade Citambur. La deuxième version est dérivée du bruit de la cascade qui tombe dans la piscine et sonne comme un tambour. La cascade Citambur se trouve 40 km au sud du sous-district Ciwidey. De Bandung, prenez la direction au sud, au sous-district Ciwidey, et après avoir atteint la plantation de thé Ranca Bali, vous trouverez La Fourche. Prenez la route menant aux plantations de thé Sinumbra. Le voyage de la plantation Sinumbra à travers du village Cipelah, Ranca Bali, au village Karangjaya prend environ 1h30. Ici, vous passerez la route qui est encore assez bonne. Après cette route, vous passerez un chemin rocailleux et parfois creux. En arrivant au bureau du village Karangjaya, qui est l'entrée de la cascade Citambur, vous verrez le stationnement des véhicules. Et du stationnement, vous devez encore marcher des dizaines de mètres pour se rendre à la cascade Citambur. Après avoir arrivé à l'endroit, en plus de la cascade Citambur, vous pouvez également profiter de la beauté en entourage. Vous ne serez pas debout sous la cascade, car avec de telles hauteurs, automatiquement, le coup au sol sera très fort. Donc, les visiteurs apprécient généralement la fraîcheur de la cascade à barboter dans le bassin de la rivière sous la cascade Citambur. Pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas se mouiller, ils peuvent profiter de la beauté de cette chute d'eau sur les rives de la rivière en compagnie de gazouillis d'oiseaux sauvages et le vert des arbres qui poussent autour de la cascade. Chers amis, c'était notre magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain, à la même heure et même fréquence, avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidèle attention. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous, nous nous rencontrons dans la rubrique de l'Indonésie en couleur et ce soir, le sujet est les gestionnaires de musées d'Indonésie se réunissent à Bali. Plusieurs 300 directeurs de musées dans toute l'Indonésie vont mettre en œuvre l'Assemblée nationale de 2016 du 30 mai au 2 juin 2016 à Bali. Cette réunion va discuter de diverses questions de musées en Indonésie jusqu'en mars 2016. L'Indonésie a 416 musées nationaux et privés. Le directeur général de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, Hilmar Farid, a dit que cette quantité devrait être accompagnée d'une collection complète des musées, des informations valides, des infrastructures et des ressources humaines intelligentes et créatives. Selon Hilmar, le musée est un lieu qui joue également un rôle dans l'éducation et le divertissement. Les musées devraient être capables de donner du plaisir pour les visiteurs. Pour cela, il faut un agréable programme public afin que les personnes intéressées à visiter le musée. Hilmar a dit, le musée en Indonésie devrait être élaboré et plus qualifié. C'est un défi pour toutes les parties. La même chose est dite aussi par le directeur de la préservation du patrimoine culturel et des musées du directorat général de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, Hari Widianto. Hari souhaite que le musée en Indonésie puisse être à l'échelle internationale. La rencontre nationale à Bali avec le thème « Réaliser l'écosystème de musées ayant le caractère et la personnalité nationale » est organisée en coopération avec le ministère de l'Éducation et de la Culture, l'Association des musées indonésiens et le gouvernement provincial de Bali. La réunion examinera les problèmes du musée existant et trouver une solution, y compris l'application de la technologie numérique, l'amélioration de l'image du musée et la participation du public dans le développement du musée. Selon Hari, une autre chose à noter est l'amélioration de la gestion du musée et la revitalisation du musée pour attirer les visiteurs. Les musées gérés par le gouvernement devraient être développés comme un musée géré par des parties privées, de sorte que le nombre de visiteurs augmente, comme par exemple le musée de la faune et le musée de transport à Javaès ont été bondés de visiteurs malgré le prix d'entrée est assez cher. La Réunion nationale de musées est souhaitée d'être capable de fournir de nouvelles connaissances et de partager leur expérience sur la façon de gérer et de développer les musées en Indonésie. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme chaque semaine, je vais présenter la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales et le rapport d'écoute et aussi le message. Dans ce programme, je vais saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, je vais présenter des chansons de Dangdut chantées par Camelia Malik. Bon, chers amis, on écoutera la première chanson intitulée « Colak Colek » chantée par Camelia Malik. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson de Dangdut intitulée Colak Colek chantée par Camelia Malik. Chers amis, le succès de l'album de Colak Colek renforce la position de Camelia Malik en tant que chanteuse de Dangdut indonésienne. Cette chanson a reçu un prix du Centre d'information des forces armées. Elle est élue comme la meilleure chanteuse pour la période 1978 jusqu'à 1981. Ses albums suivants sont succès et beaucoup ont été filmés. En 2003, Camelia a participé au Festival du monde malais du monde islamique tenu à Pangkal Pinang. Elle a également collaboré avec de nombreux musiciens et chanteurs, entre autres Evie Tamala, Iis Dahlia, Roma Irama, Ahmad Albar, Muksin Alatas, et elle a aussi créé quelques chansons et reçu le prix pour la catégorie Le meilleur compositeur en 1999. Bon, chers amis, maintenant je vais lire le message. Merci à tous ceux qui nous ont écrit et envoyé des rapports d'écoute. Meilleure salutation à notre ami Joël Lins à la France. Il a écrit « Bonjour, je vous écoute depuis la France sur 9526 kHz. Je voulais vous adresser un rapport d'écoute, mais impossible d'accéder à votre formulaire. Le lien ne fonctionne pas. Toutes mes amitiés, cordialement, Joël Lins. » Merci à vous pour votre email et je vais envoyer des souvenirs. Merci et restez toujours en contact avec nous. Maintenant, comment va notre cher ami du Brésil, José Socorro Soeiro Maranhão, précisément dans le nord-est du Brésil. Merci pour le rapport d'écoute envoyé. Salut et merci à notre auditeur de lundi, Siddhartha Bhattacharjé, à Medinipur. 721424. Merci pour le rapport d'écoute. Et chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de Camelia Malik intitulées Rekayasa Cinta.
Sudah direkayasa di Allah Ali.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme Courrier et musique. Et vous avez écouté tout à l'heure une chanson de Dangdut chantée par Camelia Malik intitulée Rekayasa Cinta. Maintenant, je vais dire bonjour aux auditeurs de la France, Monsieur Alain Carlier, et puis Vincent à Courbevoie, la France, Jean-Michel Aubier à Arseille, la France-Jacques, à Enro des Églantiers, F494-30-Will, et aussi Marie-Chelle Pierre de la France, précisément à 17 allées d'Etrou-Gelly, et Claude Hieronymus à Nancy, la France. Comment va mes amis d'Algérie, Abdelila Bouchir, et aussi Giovanni Sergi en Italie, et Coach Didier à Bruxelles, le Belgique. Comment va mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, je vais présenter les deux dernières chansons de Dangdut intitulées Gengsi Dong, tous les deux sont chantées par Camelia Malik. Cette émission est maintenant terminée. Très bonne fin. Et à bientôt. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure notre programme Courrier et la musique de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.